Rectangle.
Bonjour, bienvenue dans le Freakzine Music Show sur Radio Rectangle, Benjamin Scott au mic. Et à mes côtés, pour un numéro spécial, anniversaire je pense, c'est votre anniversaire bientôt, j'ai à mes côtés donc Christophe Harms, je ne sais pas si je le prononce à l'allemande ou
Harms. Comme tu veux, Harms. Fais-toi donc, plaisir.
Christophe, pour le label Humpty Dumpty, tu fêtes tes 10 ans je pense.
Non, 11.
11
parce qu'on a loupé l'occasion pour les 10.
Ouais, donc tu as remis une année.
Donc
après.
On a dit on fait 10 plus 1.
Oui, mais il faut dire qu'il y a une année aussi. De préparation aussi pour le label. C'est une année de tâtonnement.
Ouais.
Donc Humpty Dumpty, quand même un label assez éclectique. Tu le définirais comment ce label, toi?
Ben oui, en effet, je pense qu'on est plus proche des labels comme des trucs genre Domino, ce genre de choses, dans le sens où il n'y a pas de... C'est pas un catalogue monomaniaque, quoi.
Mm-hmm. Au début, ça ressemblait un peu à ça quand même, non? Puis c'est un peu bifurqué vers...
Non, pas vraiment. Non, parce que dès le départ, la première sortie, c'était Miel, et puis après, on est parti sur Tazio & Boy, qui était un truc très folk, et puis il y a vite eu K-Branding, qui était...
Et là, c'était OVNI, là, c'est dans
c'est
le catalogue.
Ça. Donc, non, l'idée, c'était plutôt... en fait, c'était un peu la continuation de quand je travaillais au magasin Le Bonheur, pour ceux qui ont connu, qui sont vieux, qui était un magasin créé par Thierry Berleur et qui était une sorte de concept store entre guillemets où il vendait que ce qu'il aimait bien et qui est vite devenu plutôt axé musique et audiovisuel. Et en fait, ce qu'on défendait au Bonheur, c'était vraiment hyper éclectique dans les choix, mais chaque fois des projets entre guillemets singuliers avec une forte... une forte image ou un truc un peu décalé, quoi. Donc ça, je pense qu'on a gardé un peu cette ligne directrice là
de cette première période de Humpty Dumpty. Si on devait écouter un titre par exemple, un qui te tient à cœur, puisque c'est toi notre invité, lequel est-ce que tu choisirais de ces premières sorties Humpty Dumpty?
On peut écouter un titre de Miel par exemple.
Miel, qu'est-ce qu'ils sont devenus, par exemple?
Ah bah écoute, ils enregistrent un album depuis, je sais pas, 5 ans ou un truc comme ça.
My Bloody Valentine, c'est l'album qu'on attend.
Oui, c'est un peu ça, ouais.
Mais je pense qu'il y a des membres qui ont des projets respectifs.
Oui, ils sont
assez présents quand même.
Oui, ils sont tous hyper actifs en tant que musiciens. Catherine, elle est dans Bloody Brownie. Elle a le projet pour enfants avec Samir Barry, Sissi Baba.
Est-ce qu'elle n'a pas joué avec Agnès Obel aussi?
Oui, elle a pour l'instant, elle joue avec Agnès Obel. Donc elle est pas mal occupée. Franck, il a aussi eu pas mal de trucs.
Enfin, déjà occupé, quoi. Et donc on attend leur album.
C'est ça, et oui, c'est ça. Et Stéphane, il était occupé avec Françoise Breu aussi, c'est lui qui compose avec Françoise, qui a composé avec Françoise les deux derniers albums. Donc voilà, il y a de quoi faire.
Un petit Miel alors.
Oui.
Sur Radio Rectangle, Benjamin Scouse et son invité Christophe Ars de Humpty Dumpty. C'est toi Humpty Dumpty en fait. On pourrait dire ça comme ça. C'est un label One Man Label ou il y a quand même toute une équipe derrière qui s'active?
Non, il n'y a pas de. Enfin, c'est moi le. Oui. C'est moi qui fais la plupart des choses. Et puis, il y a de l'aide pour certains trucs, pour l'écriture de bio, ou donner des coups de main, ça oui. Mais clairement, tout ce qui est entre guillemets coordination et plus. Business machin, oui, c'est moi quoi.
Et le label, il a commencé en parallèle avec le Bonheur, alors c'est-à-dire que les groupes, j'imagine, il y avait des groupes qui fréquentaient le lieu, enfin des artistes, des musiciens, et tu as eu envie en parallèle au Bonheur de créer le label, ou ça s'est venu un peu après pour continuer ce magasin et cet esprit?
Ben c'est venu, non, ça a commencé pendant en fait. Donc en fait, Thierry a toujours eu envie de sortir des disques et tout ça, et c'est moi qui ai un peu pris le relais là-dessus.
Tu t'y connaissais un petit peu, toi, là-dedans? Enfin, je veux dire, dans la production, c'était pas une étape que tu connaissais à l'époque?
Non, c'était un peu... c'est un peu le hasard qui a fait qu'on a sorti le premier album, en fait. Moi, j'aimais bien Miel depuis longtemps. On avait cette idée de créer un label, et à l'époque, on faisait surtout... il y avait déjà une ASBL qui existait, mais on faisait surtout de l'événementiel, quand on faisait des soirées qui s'appelaient Dictapop. Où c'était un peu en fait le même concept, on faisait jouer des groupes qui ne trouvaient pas vraiment d'endroit pour jouer dans des cadres plus institutionnels et qui étaient aussi, c'était aussi super éclectique quoi. Ça allait d'Herman Dune à des trucs électro, enfin, et en fait on a fait jouer Miel dans le cadre de ces soirées, et c'est comme ça qu'on s'est entre guillemets rencontrés, et qu'il y a eu, eux ils avaient un album qui était fini, qui était vraiment en phase de mastering et tout ça, qui était quasiment prêt à sortir. Ils n'avaient pas de proposition, et c'est comme ça qu'on s'est lancé là-dedans quoi.
Donc tu t'es retrouvé à coller les étiquettes pour le groupe alors, et les...
Exactement.
Et puis voilà, faire un label et tout, et puis tu te retrouves quand même à faire des tâches qui sont quand même multiples et...
Ah complètement,
parfois,
oui.
Parce que les gens ne savent pas toujours, hein. C'est pour ça que je fais une petite...
Oui, tout à fait, et puis l'avantage qu'on avait aussi avec le magasin, c'est que... On avait déjà un certain nombre de contacts distribution, et puis on pouvait commencer aussi à vendre
dans le magasin
quoi, ce qui était quand même pour commencer, c'était quand même pas mal.
Combien de sorties pour le moment sur Humpty Dumpty, plus ou moins?
On est à 33.
Oui, quand même.
Ouais.
Quand on regarde un peu le catalogue et qu'on écoute, on a quand même l'impression de voir cette scène un peu bruxelloise. Enfin, c'est un peu, il y a quand même un aspect familial, je dirais, au label. Enfin, en tout cas, pas de collectif, mais dans les gens, les projets. Parfois, on voit que c'est des projets qui viennent un peu d'une même sphère.
Collectif, pas vraiment. il y avait vraiment plus cet aspect collectif dans Matamor, par exemple,
oui.
où c'était un peu toujours le même bend avec des projets différents, ouais. entre guillemets. Puis après, ça, c'est, la famille s'est un peu élargie. Ici, c'est un peu différent. Après, il y a en effet des musiciens qu'on retrouve dans plusieurs projets, comme Damien Magnette, par exemple, qui joue dans... qui coordonne le White Classical Music Ensemble, qui se retrouve dans Facteur Cheval. Carl, qui est dans Carl et les Hommes Boîtes, dans Facteur Cheval. Et puis, oui, il y a des collaborations après qui se sont faites. Par exemple, je sais pas, il y a Carl sur un morceau de Blondie Brownie. Enfin, il y a plein de connexions. Après, c'est un peu comme Liège aussi, c'est pas un milieu énorme, quoi.
Oui, c'est ça. Dans la connexion Carl, c'est un peu la connexion un peu plus déjantée, ça, sur Petit-Dumpty. Un peu moins pop, on va dire, quand même.
Ouais, tout à fait, ouais.
C'est quoi, on pourrait qualifier ça un peu de musique pas expérimentale, mais c'est comme... Il y a aussi beaucoup de... Quand je parle d'expérimental, je veux dire, il y a aussi beaucoup de l'image qui se mélange aussi dans ces disques-là. Enfin, je veux dire, les pochettes.
Ah ouais, oui,
il y a
tout
aussi
à
une
fait.
Dimension graphique aussi.
Complètement, oui. Oui, ben, moi j'ai toujours été sensible à l'aspect graphique des choses, à l'illustration et tout ça. Et c'est clairement une volonté depuis le départ d'essayer d'avoir des beaux visuels, quoi. Et des chouettes objets, même si. La vente de disques ne nous permet plus tellement autant de folie qu'avant au niveau des packagings et tout ça, mais il y avait vraiment une volonté un peu d'aller vers des chouettes objets, quoi. Et c'est vrai que Carl, il est avant tout, en fait, il est avant tout illustrateur et dessinateur. Donc son premier, entre guillemets, son premier job, c'est plutôt de faire des films d'animation, du dessin. Et en fait, son envie de faire de la musique, c'est un peu connecté à ça. Et il dit toujours que lui, ce qui l'intéresse, c'est de raconter des histoires. Donc pour lui, je pense que c'est une manière parmi d'autres de raconter des histoires.
Qu'est-ce qu'on écouterait de cette connexion Carl et les Hommes Boîtes ici? Un extrait de l'album ou il y a un titre ou l'autre que tu aimerais?
Ah, on peut écouter... Odeur.
Ok.
De Carl et les Hommes Boîtes.
Odeur de Carl et les Hommes Boîtes sur Radio Rectangle.
Sceptisé, mon empreinte de main ensanglantée, je me dessinais sur fenêtre, entrée étroite, odeur âcre, chemin peu balisé, odeur incrustée dans les murs, des autres hommes qui sont passés, leur odeur se sont cachés, lorsqu'ils ont m'énervé, lorsqu'ils ont m'énervé, se rapprocher de tes jambes écartées.
C'était Fruxil Music Show. Si tu devais choisir le plus bel objet que vous avez fabriqué sur un petit d'un petit, je veux dire le rapport pochette musique, c'est quoi ton
En vinyle, je dirais que c'est sans doute le South of No North, qui est un projet un des plus obscurs qu'on ait sorti, ouais. Entre enfin obscur non, mais plus expérimental, qui est un des projets de Cédric Acid Kirk.
Ah oui.
Mais un projet en groupe, vraiment une sorte basé sur des improvisations psychées. Et lui avait une connexion avec un illustrateur américain qui faisait des trucs complètement hallucinés, un peu sous LSD. Et je pense que voilà, c'était un double album en vinyle avec une face gravée.
Grand luxe, quoi.
Ouais, grand luxe, ouais, tout à fait.
Excellent, ça.
C'est une des plus belles réalisations. Et sinon en CD, à une époque on faisait on faisait presser des CD avec des packaging qui s'appelaient des Arigato Pack, ah qui étaient faits aux États-Unis quelque part, en letterpress et tout ça. Et on en a fait quelques-uns comme ça, notamment pour Tank Type, Yannel Solveig, Claire Louise, Karl. Et ceux-là, ils sont, c'est vrai que voilà, c'était cher, mais l'objet vaut le coup d'œil.
Ça, c'était plus ou moins vers 2007-2008, je pense, non? Je me souviens avoir vu Tank Type, ce genre de pochette.
Oui, un peu plus tard.
Un peu plus tard, même.
Ouais, ouais.
Sur Humpty Dumpty, il y a eu dernièrement Joy as a Toy.
Tout à fait.
Une pochette aussi assez psychée.
Ouais.
Comment est-ce que tu es rentré en contact avec ce groupe? Parce que c'est un groupe qui vient aussi d'un univers. Moi, j'avais joué avec eux qui était assez. C'était presque mathématique, prog, un peu hors de le. Pas scientifique, mais je veux dire, c'est une drôle de mélange. Et puis là, ils sortent un album, Humpty Dumpty, qui est quand même beaucoup plus classique, enfin,
ouais,
par rapport
à
d'où
ils
viennent, je veux dire.
Ben, il y avait clairement une composante qui est un peu, qui pourrait être Freaksville d'ailleurs. Il y avait un côté un peu film de série B, tout ça, dans leur imagerie et dans ce qu'ils écoutent. Vieux films d'horreur et tout ça, il y avait des samples d'ailleurs de films de vampires, de zombies et compagnie. Et puis, oui, je pense qu'ils sont... c'était un peu une musique de musicien, entre guillemets.
Oui, c'est ça, voilà, une musique un peu savante.
Ouais, tout à fait. Et je pense qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment, l'auditeur s'en foutait un peu, que ce soit musicalement, entre guillemets... des accords très originaux, des machins, des structures compliquées. Ils ont voulu, entre guillemets, simplifier le propos, je pense. Et arriver à un équilibre entre vraiment la pop et ce qui faisait leur essence, qui était quand même un peu une musique, comme tu disais, scientifique, quoi. Et là, je pense qu'ils y sont arrivés. Et alors, moi, en fait, eux, ils m'ont contacté, en fait.
C'est ça,
ouais.
C'est pas toi qui les a poussés vers cette étape?
Non, pas du tout, non, parce que moi je les connaissais, je savais même pas qu'ils allaient vraiment dans cette direction-là, parce que ça faisait un petit temps que je les avais plus avant concert, et non, ils avaient déjà un album qui était, entre guillemets, enregistré, et ils étaient en phase terminale de mixage quand ils m'ont contacté, et ouais, moi je trouve qu'il y avait vraiment un truc assez immédiat dans la musique qui m'a plu directement, ouais.
En tant que directeur artistique de Humpty Dumpty, donc il y a ce type d'album, des artistes qui viennent avec un disque déjà produit.
Ouais.
Là, tu mets, j'imagine, en route l'image, le travail. Même parfois, les pochettes sont faites, peut-être.
Oui, parfois, ça arrive. Ouais.
Puis parfois, j'imagine, tu as été confronté à des expériences plus de direction artistique.
Mm-hmm.
Ils ont encadré vraiment le projet de démo jusque. Ça a
ouais,
été le cas pour quel album, ça, par exemple? On retrouve la patte de Christophe Ars, voilà.
Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a, on produit de moins en moins, clairement, pour des raisons purement budgétaires. Mais c'est vrai que sur les albums, comme par exemple VO ou Le Yeti ou Miel, il y avait plus un vrai suivi dès le départ, quoi, avec des idées de propositions de mixeurs, des choses comme ça. Et ouais, c'est moins le cas maintenant, ouais.
Peut-être dû aussi à la technologie qui permet aussi peut-être à des artistes d'avoir des produits peut-être plus finis aussi.
Oui,
peut-être aussi. Non,
oui, oui, mais enfin, on revient quand même plus à une forme de DIY, quoi. Genre
ouais.
Avec VO, on était quand même, eux étaient partis enregistrer à Chicago.
Oui. Grand luxe.
On va, je sais pas si on le refera sur le prochain, par exemple, tu vois.
On va les écouter et puis on va écouter Joy as a Toy d'abord et puis VO. Quel titre? De quel album, tu dirais? Enfin, quel album, plutôt?
Pour VO, on va écouter When You See Red. Et Joy as a Toy, je propose Madhouse.
Oh, Open door.
Christophe Ars, notre invité pour les 11 ans, mais 10 ans de Humpty Dumpty. Benjamin Skos aux manettes et au microphone. Une artiste plutôt qui a poussé un peu le label en avant parce qu'elle était peut-être un peu plus connue, en tout cas sur le territoire français, c'est Françoise Breu.
Ouais, donc, tout à fait. Ouais.
Ça a amené ça a ouvert le label un peu d'ouverture vers un autre public, non?
Ouais, complètement. Ouais. Et puis c'était cohérent parce qu'il y avait déjà une ligne qui avait été un peu initiée par Miel. Et j'ai toujours eu aussi une volonté de défendre de la chanson, enfin de la musique en français dans le texte, sans que ce soit un aspect chanson traditionnel, mais qui sort un peu justement du côté chanson française poussiéreux, quoi. Ce que Françoise n'a pas du tout, vu que ses inspirations musicales sont beaucoup plus anglo-saxonnes. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça a un peu ouvert le label au niveau visibilité. À ce moment-là, on a commencé à distribuer par Bang. Enfin, voilà, ça a permis un peu des choses aussi.
Et puis Françoise Breuze aussi est une illustratrice, qui amène aussi une image qui n'est pas si éloignée des sorties quand on regardait sa pochette, etc.
Ouais.
Par rapport aux autres sorties.
Bah ouais, tout à fait.
Une cohérence.
Et il y avait déjà un peu une histoire aussi parce qu'elle avait fait la pochette de la deuxième sortie du label, qui était un duo de Saint-Nazaire qui s'appelle Tazuin Boy, qui n'existe plus, et on lui avait demandé à l'époque de réaliser la pochette. Et puis encore une fois, on l'a fait jouer dans des soirées dictapop. C'est un peu comme ça que les choses se sont faites, quoi.
Et là, c'est un album, elle est venue avec son disque aussi, ou vous avez encadré la sortie, ou c'était
non, là
c'est un projet aussi plus conséquent, oui, pour vous?
Non, c'était vraiment une licence sur celui-là. Donc oui. L'album était... Enfin, j'avais déjà entendu les démos et tout ça. On avait suivi le truc en amont, mais c'était à l'époque produit par un label français. Et nous, on s'occupait de la Belgique, quoi.
On va écouter évidemment Françoise Breu et Tazuin Boy.
On peut, oui.
Pourquoi pas, non?
Tout à fait.
Tu aimes toujours cet album-là?
Tout à fait.
Oui, je trouve ça très
bon. Oui, il y en a deux. Et le deuxième est malheureusement passé un peu à la trappe parce que le duo a splitté plus ou moins à ce moment-là. Et pourtant, c'est un excellent disque.
Il y a un retour du duo pour le moment, j'ai l'impression, en musique pop, sans doute des raisons économiques.
Aussi, ouais.
J'ai l'impression qu'en France, en tout cas, et même ici, commence à avoir une série de duos.
Oh, il faut arrêter de signer des groupes avec 8 musiciens. Hein.
Pourquoi?
Beaucoup trop cher à faire drone.
Et les White Musical, j'arrive jamais à dire le nom, White.
White Classical Music Ensemble.
Oui, là ils sont nombreux quand même.
Ouais, tout à fait. Mais c'est cher.
Ah bah voilà.
J'ai perdu l'équilibre quand j'ai vu dans tes yeux un éclair de folie, un zeste de mépris. Je ne veux plus entendre tes paroles de disciple et laisserai tes mains lâches à la première venue. Et au lieu d'attendre, et au lieu d'attendre, comme une bête en otage, les graves décisions d'un ébé de bonhomme, je préfère t'étaler dans
C'était superbe hein, ce qu'on vient d'entendre là. Encore bravo pour ces 11 ans, Christophe. Revenons un peu sur Wild Classical Music Ensemble. Projet assez étonnant, ça aussi qui a rayonné pas mal, je trouve. Je sais pas, il y a même une sortie sur Bandbad pour le vinyle, je pense. De...
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
Ça, c'est un projet aussi assez étonnant par rapport aux autres sorties et puis qui débarque comme ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un choc quand on entend ça.
Ouais, c'est surtout un choc quand on les.
Et quand on les voit.
Quand on les voit, surtout en concert, ouais, c'est quand même en général une petite claque pour les gens. Et ça... C'est à ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment un truc qui se passe, qui est moins immédiat sur disque, vu que c'est un peu. Borderline musique quand même. Et ouais, en fait, la connexion pour le ouais, Classical Music Ensemble, c'est que Damien, on avait sorti Zoft, qui est un duo plutôt noise rock, et Damien coordonne ce projet de ouais, Classical Music Ensemble, qui est donc un projet avec des personnes qui ont des handicaps divers. Et au départ, c'est né sous forme d'atelier. Et puis petit à petit, ils sont passés de la musique improvisée, ils ont, entre guillemets, appris à maîtriser leurs instruments, et il y a eu vraiment une volonté de passer sur un format plus rock, quoi. Et le premier album était sorti sur Sub Rosa à l'époque, qui était beaucoup plus expé, et nous on a sorti le deuxième, qui est ouais, vraiment rock, mais comment expliquer
Oui, c'est pas du FM rock quand même. Hein.
Non, certes. Mais par contre, il y a quand même le guitariste a quand même une vraie, ouais, une vraie connaissance rock. Quoi. C'est un amateur de riffs et compagnie, quoi.
Oui, c'est ça. Si Sub Rosa est vraiment un label expérimental et de recherche sonore, un petit Dumpty quand même à la croisée de ces genres, mais reste quand même un label indé pop.
Oui, tout à fait. Ouais. Et oui. En même temps, moi, j'écoute pas mal de musique expérimentale aussi. Donc, ça me fait toujours plaisir d'en sortir. Mais
avec quand même ce côté pop culture, quoi, quand même.
Oui. Je pense que c'est une qualité du label, c'est son éclectisme. Après, en termes de compréhension et de visibilité du label, ça rend les choses plus compliquées, quoi. Parce qu'on n'est pas identifiable. On n'est pas très identifiable. Quoi. C'est...
Surtout si on passe de Wild Music Classic Ensemble, c'est ça? Non. Wild Classic Music Ensemble.
Wild Classical Music Ensemble.
Ah, le Yeti par exemple.
Ah oui,
pour
non.
Nos auditeurs, là, le choc va être terrible.
Le choc va être terrible,
en effet. Mais c'est ce qu'on va faire, je dis.
On peut écouter du Wild Classical Music Ensemble. Je propose d'écouter The Workers.
Écoutons The Workers et moi je vais choisir un petit Yeti parce que j'aime bien le Yeti.
D'accord.
Comment ça va? Et qu'elle revient? Comment ça va? probable que je ne t'aimerai pas toujours. Il est possible que ce qu'on se dit n'a qu'un temps. Il est certain qu'on ne va pas arrêter d'y croire. Ce n'est pas malin, ça va encore faire des histoires d'amour. Et pourtant, j'essaierai à jamais, j'y croirai jusqu'au bout. Je souffrirai, j'en suis sûr, mais je ferai des efforts. J'essaierai à jamais, je refuserai mes regrets pour dépasser nos envies différentes aujourd'hui. Il est probable que je ne t'aimerai pas toujours. Il est possible que ça dure encore longtemps. Il est certain que cette illusion nous fait du bien. Quant à demain, je perdrai encore la raison, je le sens. J'essaierai à jamais, j'y croirai jusqu'au bout. Je souffrirai, j'en suis sûr, mais je ferai des efforts. J'essaierai à jamais, je refuserai mes regrets pour dépasser nos envies différentes aujourd'hui. Je souffrirai, j'en suis sûr, mais je ferai des efforts. J'essaierai à jamais, je refuserai mes regrets pour dépasser mes envies différentes aujourd'hui. J'essaierai à jamais, j'essaierai à jamais, j'essaierai à jamais. J'essaierai à jamais.
Sur Radio Rectangle, nous venons de sauter du rock à la pop française. Autre album aussi un peu déprimant quand même, c'est l'album de Joy. Qui était quand même un grand disque ténébreux. Enfin, vous en avez sorti deux, je pense, non?
Ou un? Non, un, ouais.
C'est quand même un grand disque ténébreux, celui de Joy, non? Il porte mal son nom. Enfin, c'est voulu, je ne sais
oui.
pas.
Oui, non, c'est sûr que c'est pas très dance floor, ni très lumineux. Mais oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un peu, je dirais, la continuation plus sombre du travail que Marc avait entamé avec Vénus, quoi. Donc, je trouve qu'on reconnaît quand même...
Oui, on reconnaît sa patte. Hein,
ouais, on reconnaît clairement la patte. Après, c'est une évolution, entre guillemets, plus sombre et aussi...
plus adulte.
Plus adulte, je ne sais pas, mais dû aussi à la formation musicale choisie, quoi, qui était... batterie, guitare et violoncelle.
Il y a quelque chose d'un peu crépusculaire dans cet album, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui est quand même déprimant. Enfin, écouter à des moments... Enfin, déprimant, hein, écouter à des moments un peu sombres.
Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Et puis c'est... Oui. Il y a eu beaucoup de gens, évidemment, qui avaient fait la corrélation avec un groupe comme Low, par exemple.
Oui. Oui, c'est plus proche de Low que de Vénus, par exemple.
Oui, complètement. Même si c'est... je crois encore plus sombre que Low. Ou dans l'eau, il y a quand même plus. Il reste souvent quelque chose de plus lumineux dans leur musique. Mmh.
Car Branding, ça c'est quand même bizarre ce projet-là aussi. Je vais pointer des choses qui sont un peu. Mmh. Tu vois, un peu curieuses dans le catalogue, mais Car Branding, deux albums là, je pense.
Ouais, deux albums.
Et là, c'est quoi la connexion avec ce groupe?
Ah, la connexion avec ce groupe.
Parce que c'est un son là quand même vraiment différent de.
Ah oui, 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 complètement. Ben, moi, c'est un groupe que j'ai découvert en live. Et j'ai directement adoré ce qu'ils faisaient en live, quoi. Il y avait une espèce de folie, une puissance et une énergie que j'ai vu dans peu de groupes en tout cas par chez nous, quoi. Et ben voilà, Collection s'est fait comme ça, juste parce que j'aimais le projet, et puis on a mis en route la production d'un album, quoi. À l'époque, je pense qu'ils avaient une ou deux démos, et un public quand même de fans et assez grandissant, quoi. Pas énorme, mais vraiment, je pense que c'est un album qui fera un peu date, quoi, qui sera un peu cul, je pense.
Oui, la pochette est très belle en plus.
Ouais, ouais, tout à fait. Il y avait une. On a, à l'époque, Vincent, le saxophoniste, avait fait assez frais une petite, un petit pressage vinyle. Et voilà, il est parti hyper vite, quoi. Et je pense qu'il. Ouais, je pense que c'est. Dans le catalogue, je pense que c'est un des titres dont on gardera des traces.
Est-ce que ce n'est pas finalement, en tant que label indépendant, parfois les disques les plus obscurs du catalogue, hein, je parle auprès du grand public, qui prennent un peu de la bouteille, comme enfin, par exemple, si tu vas, nous on voit bien, par exemple, avec Frixville, que sur Discogs, par exemple, c'est certains albums qui ont été tirés à des petits exemplaires, qui sont pas les plus connus du catalogue, qui parfois deviennent un peu les disques phares physiques.
Ouais,
c'est un peu
pense.
Le cas aussi avec.
C'est encore difficile à dire, oui, mais oui. En tout cas, par exemple, sur K-Branding, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un projet. À la croisée entre le noise rock, le jazz et un esprit improvisé, en tout cas, qui est vraiment ça envoie, quoi. Enfin, en tout cas, pour le premier, le deuxième était beaucoup plus.
Ils ont tout donné sur le premier aussi au niveau énergie, hein. C'était difficile de.
Il y avait une volonté, en tout cas pour le deuxième, il y avait vraiment une volonté d'aller ailleurs, quoi. Ce qu'ils ont fait, en changeant complètement le kit de batterie, en allant vers des sons plus industriels. Voilà, il faut savoir que Vincent, par exemple, est un grand fan de musique un peu indus et tout ça. Et voilà, la direction du deuxième est allée là-dessus. Mais c'est vrai qu'au départ, ça venait un peu. C'était un peu dans la lignée de groupes comme Zoo ou des choses comme ça, quoi.
Zoo sans Léo Ferré. Il aurait fallu les mettre avec Mark Huygens pour faire un album à la.
Bah oui.
Ça aurait été une belle rencontre.
Tout à fait. On peut faire des croisements improbables comme ça. Hein.
On écouterait quoi là de K-Branding ? Premier album, hein, on va écouter ça, un extrait du.
Ouais,
premier
album.
Ceaseless beat.
Fluxil Music Show, Benjamin Skoz, Christophe Ars, pour retracer l'épopée Humpty Dumpty. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez toujours une faculté avec Humpty Dumpty à rebondir après quelques projets parfois plus difficiles, à rebondir sur un projet qui remet le label et, au centre de la carte de la pop. Par exemple, arrive Mountain Bike, un projet beaucoup plus pop, power pop même, je sais pas, avec une image un peu plus qui rappelle un peu le côté slacker comme ça. Un peu,
ouais, complètement. Ouais.
Et paf, le label repart là. Je veux dire, repart vers une direction beaucoup plus grand public et avec un groupe plus populaire. D'ailleurs, je pense que leur musique a été utilisée aussi quelques fois au cinéma.
Ouais, tout à fait. Ouais. Après, c'est pas du tout calculé, par exemple. C'est pas une volonté spécialement d'aller vers quelque chose de plus pop. C'est vraiment une question de rencontre, quoi. Un peu pareil. On m'en avait parlé. Je les ai vus sur scène. Ils avaient un disque qui était, ouais, quasiment terminé. Qui devait à la base sortir, pour la petite anecdote, sur Teenage Menopause.
Ah oui.
Label entre autres d'Elzo. Et finalement, à l'époque, ils étaient quand même dans un truc artistique plus dur, quoi. Et à l'époque, voilà, il est un peu passé à côté du disque. Il était plus très chaud de le sortir. Ce qui, par après, je pense qu'il l'a regretté. Et du coup, il a voulu s'associer pour la sortie du deuxième, ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que...
C'était pas rancunier, tu...
Oh, bah c'est eux, hein. C'est eux qui produisent. Non, du tout. Et c'est vrai que oui, ça a un peu renouvelé l'esprit pop du label. C'est vrai que les sorties précédentes étaient un peu plus compliquées, quoi.
Oui, une certaine fraîcheur ici, je veux dire. Dans
ouais, bah c'est sorties, exactement ouais. Ça qui m'a plu en fait chez Mountain Bike, c'est que c'est frais, c'est sans prise de tête, c'est pas prétentieux. Et eux, ce qu'ils ont envie, en gros, c'est de jouer, quoi. C'est aussi je pense que bah, tu le sais bien, c'est aussi des rencontres humaines, quoi. Vu qu'on fait ça quand même entre guillemets pour le plaisir, le côté humain vient clairement renforcer les choix, quoi. J'ai plus envie ou pas très envie de me faire chier avec des emmerdeurs, donc autant sortir des disques de gens cool.
Et donc ici, ils reviennent.
Ils reviennent, tout à fait, avec un deuxième album
attendu, bah, le 3 mars.
Et ouais.
Tu m'as dit plus produit, c'est plus produit.
Ouais, c'est moins garage. Parce qu'en fait, à la base, tous les musiciens du groupe, ils viennent vraiment d'un réseau garage assez dur, entre guillemets. Et la volonté de Mountain Bike, qui était à la base un de leurs side projects, c'était d'aller voir ailleurs, quoi. Donc d'un peu exploiter l'énergie du garage tout en gardant une fraîcheur plus pop et un côté plus mélodique. Et donc là, c'est clairement ce côté-là qui est affirmé. Donc ça l'orne plus vers du Mac DeMarco que vers du Dio 6, quoi. Et en effet, l'album, le premier avait été un peu enregistré à l'arrache. Ici, il y a un peu plus de production au niveau du mixage, quoi.
Donc on les attend. Qu'est-ce qu'on attend d'autre sur Humpty Dumpty ? Ça, c'est vraiment la priorité pour le moment, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Et alors, y a des choses en chantier. Mais il y a un groupe, nouvelle signature, qui s'appelle Yokai, qui est un groupe à la croisée du jazz, de la musique éthiopienne et du psyché.
Ah oui, voilà. Tu repars vers des nouvelles expérimentations alors.
Tout à fait. Et c'est un groupe que j'ai découvert en live et où je me suis pris une bonne claque.
Groupe belge ou...
Ouais, tout à fait. Ils sont basés à Bruxelles et qui, avec des musiciens qui viennent pour la plupart vraiment du réseau jazz, mais qui veulent aller un peu vers autre chose, quoi, vers des trucs fusion, musique africaine.
On voit du projet duo là.
Ah oui, non, ouais, sur ce projet là, oui, ils sont beaucoup en plus. C'est genre deux batteries
en stéréo.
Ouais.
Outside to face the day. in sorrow. It's too nasty over there to fight again. But maybe she's going far from home. Ask me once or twice.
Les 11 ans du label, donc, enfin 10 ans officiels, y a-t-il des événements prévus, y a-t-il des choses, des ressorties, des nouvelles éditions? Comment vous la jouez? Vous la jouez un peu modeste ou plutôt
Plutôt modeste, je pense. Oui, en effet, il y a quelques soirées qui sont prévues, dont une pendant le festival des Arts Lunaires à Arlon en mai, une au Réflecteur, je pense, le 25 mars. Mm-hmm. Et alors, on essaie encore de mettre en place une ou deux soirées comme ça sur 2017. Et puis, peut-être que sans doute... un nouveau site web, revoir un peu l'identité graphique. Et peut-être que quelques petites surprises aussi, quoi. Mais pas vraiment de réédition prévue pour le moment.
Ok, on repartagera de toute manière tout ça sur Radio Rectangle dans diverses émissions. On suivra cette année attentivement votre production.
Avec plaisir.
Et vos artistes. En tout cas, merci Christophe d'être venu dans le Freaksy Music Show.
Merci à toi.
Tous les liens seront dans le lien du podcast, les labels, etc. Bandcamp, j'imagine.
Évidemment.
Voilà, évidemment. À tout bientôt. Bye.
Rectangle, le podcast.